J'ai mis l'accent plutôt sur les dimensions réelles de la crise et pas sur la crise financière. Non pas que j'en parle pas, mais c'était le choix que nous avions fait pour l'exposer. Donc la partie qui est peut-être la plus importante dans la crise sera relativement résumée. En revanche, j'ai plus mis l'accent sur la question de la répartition, puisque c'était la question que nous nous posions au départ, avec l'évolution en particulier de cette répartition et les conséquences des inégalités aux États-Unis de façon principale ou en France. J'ai quand même fait une analyse un peu générale de la crise. Donc le problème de l'introduction, j'essaye simplement de poser un diagnostic sur cette crise que nous connaissons depuis 2006-2007. Et le problème, c'est de savoir si c'est une crise classique ou ce qu'on appelle une grande crise. Les grandes crises sont des crises structurelles, comme on en a connu au cours de l'histoire du capitalisme, et on peut parler de grandes crises à propos de la crise de 1848 ou de la crise 1873, surtout aux États-Unis, en Allemagne, 1882 en France, bien sûr 1929, et puis aussi 1972, qui a été une rupture particulièrement importante. Ce sont des crises dont on considère qu'elles sont à la fois le signal, le signe, et aussi le prélude à un changement de paradigme productif. Et on peut mettre ceci, je l'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, naguère, on peut mettre ces changements de paradigme productif en relation avec les cycles longs de type Kondratiev. Dans ces grandes crises, je crois qu'il faut faire un cas particulier pour la crise de 1929 et des années 30. Il s'agit d'une catastrophe, comme je le dis ici. C'est quand même, bien entendu, le type même de la grande crise avec changement paradigmatique, mais ce n'est pas seulement ça. Et l'ensemble des erreurs politiques qui ont été commises au cours de cette période fait qu'on est arrivé à une crise d'une ampleur manifestement hors du commun. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la probabilité pour qu'une crise comme la crise de 1929 revienne est très faible, sauf remultiplication de la même série causale. Bon, si on prend la crise actuelle, évidemment, si on prend cette crise actuelle, le diagnostic, le problème, c'est de savoir s'il s'agit d'une crise de croissance ou d'une crise du régime de croissance. Bien entendu, je peux donner dès maintenant mon idée générale. Il s'agirait, dans mon esprit, et c'est ce qu'il faudrait démontrer, plutôt d'une crise du régime de croissance ou d'une crise qui marque un moment de mutation de paradigme productif. Ça ne veut pas dire qu'on va entrer à la suite de cette crise dans un autre régime de croissance. Bien entendu, rien n'impose la réussite de cet autre régime de croissance. Et on peut avoir une période de transition particulièrement longue. Nous sommes, à mon avis, entrés dans une telle période de transition avec la crise de 2000-2001 autour des nouvelles technologies de la communication. Celle-ci de crise doit être rapprochée de la précédente. Et ces deux crises ensemble, et peut-être une troisième à venir dans un certain nombre d'années, on y reviendra, formerait cet ensemble qui imposerait cette rupture paradigmatique. Alors, pour cette crise, quels sont les facteurs principaux de la crise ? Est-ce qu'il marche, petit point ? Non. Bon, quels en sont les facteurs principaux ? Bon, je l'ai dit, c'est une crise d'abord financière. Et cette crise financière, elle est d'abord américaine. Le point intéressant ici, c'est que à l'échelle mondiale, puisqu'il s'agit d'une crise globale, les éléments, les facteurs de crise sont répartis géographiquement. Et c'est aussi l'articulation de multiples causes et de multiples lieux où la crise s'est développée avec des différences importantes. Je pense en particulier aux États-Unis, au Japon, à la Chine et à l'Europe, ces quatre ensemble, n'ayant pas subi le même type de crise et n'ayant pas les mêmes causes. Mais toutes se sont articulées les unes sur les autres pour construire cette crise mondiale. En d'autres termes, il y a une dimension géographique. Et c'est clair pour la crise financière, qui, elle, est indéniablement d'abord américaine. D'autre part, et c'est le point important de cet exposé, pour comprendre en profondeur cette crise, il faut mettre l'accent sur les dimensions réelles. Quand on étudie les théories des crises ou les théories du cycle, les théories traditionnelles, celles qu'on retrouve dans tous les manuels, on remarque l'importance qui a été donnée par le passé aux crises réelles, c'est-à-dire aussi bien du côté de la demande, que crise, disons, keynésienne, ou du côté de la suraccumulation du capital. Et l'importance relative de la crise financière dans ces manuels traditionnels avait été souvent minimisée. On est étonné aujourd'hui de voir le phénomène inverse se produire, les économistes ne parlant finalement que, ou presque que, de la dimension financière. Importante, essentielle dans cette crise, mais pas au point de nous faire oublier les dimensions réelles. Alors, il y aurait, selon la théorie que j'essaye de soutenir, un régime économique qui serait non viable, et cette non-viabilité du régime économique, c'est ça qu'il faudrait étudier. Dans les liens avec l'économie réelle, on trouvera donc une crise de type keynésien, ou crise de réalisation, qui a été longtemps masqué par le phénomène d'endettement. Et au-delà de cette crise keynésienne, bon, vous voyez, elle est très nette aux États-Unis, en Europe et bien sûr au Japon, je parlerai aussi de la crise de suraccumulation du capital, en particulier en Chine, avec la Chine qui exporte cette suraccumulation du capital dans le reste du monde. Alors, où en est-on aujourd'hui ? C'est comme ça que nous terminerons. Et on pourra aussi éventuellement revenir, mais peut-être ultérieurement, sur une dimension qui nous intéresse particulièrement, qui est un rebondissement, mais dont je ne parle pas directement dans cet exposé, qui est la crise de l'euro, mais qui nous éloigne beaucoup des questions réelles et qui nous éloigne beaucoup de la question des inégalités. Comme nous le disions, l'évolution, vous voyez la profondeur du cycle. Donc ça, c'est le taux de croissance annuel, évidemment en pourcent et en volume. Et on voit pour les deux pays la profondeur de la crise, particulièrement forte d'ailleurs, par rapport aux États-Unis dans la zone euro. Ce graphique-là nous montre l'effondrement de l'emploi total dans les quatre zones. États-Unis particulièrement important, zone euro, Royaume-Uni et Japon. Bon, alors, la première partie, c'est la crise financière. Donc, une crise financière classique, mais particulièrement forte. Alors, rapidement, les développements de la crise financière en mettant l'accent sur les États-Unis, pendant les années 2007-2009. Donc, cinq points. D'abord, on commence avec la crise immobilière et financière. Elle commence, elle s'initie très rapidement, dès 2006, avec le problème dont on a beaucoup parlé, des subprimes titrisés, liés au système des banques originate and distribute, c'est-à-dire que les banques ne gardaient pas à leur bilan les créances risquées de type subprime, mais les plaçaient dans des véhicules qui étaient redistribués, d'où le terme « originate and distribute ». C'est certainement le point qu'on considère comme le catalyseur au lieu de le développement de la crise elle-même, avec l'importance des effets de levier immobilier et la bulle qui s'était constituée à ce moment-là. Donc dès 2006, c'est la montée des défaillances qui sont des défaillances immobilières avec des répercussions sur les banques. La deuxième crise, le deuxième moment, c'est une crise de liquidité bancaire. Donc en 2007, la crise de liquidité bancaire est très impressionnante. C'est une crise où les banques ne se prêtent plus les unes aux autres et où par conséquent le marché en banque, qu'on appelle aussi marché monétaire au sens strict, n'est plus approvisionné. La banque centrale ou les banques centrales sont obligées de se précipiter pour abonder en liquidité ce marché entre les banques. Pourquoi les banques ne se prêtent plus les unes aux autres? C'est tout simplement parce qu'elles n'ont plus confiance les unes dans les autres sur leur capacité à rembourser à la minute, hein, au jour le jour, les dettes extrêmement importantes qu'elles ont pu supporter du fait des risques sur les créances portées par les banques. C'est l'été 2007 où cette crise sur le marché interbancaire est particulièrement violente du fait de cette méfiance. Ça se traduit, cette crise de liquidité, par une très, comme toujours dans toutes les crises de liquidité qui se sont produites, on n'en avait pas connu depuis des années, en tout cas de cette ampleur. Ça se traduit par une tension très forte sur les taux d'intérêt et par une course au cash, c'est-à-dire de trouver de l'argent pour les banques. Ça provoque des difficultés telles qu'une banque comme Northern Rock est à la limite de faire faillite et on a ce qu'on appelle un run. Le run, c'est lorsque tous les déposants se précipitent à la banque pour récupérer leur argent. Petite anecdote, tiens, j'y pense comme ça. Je me souviens d'un concours d'agrégation dans les années très très longtemps. Il y a très très longtemps. Et la question était posée, c'était le run. Et aucun des candidats dans ces années, qui étaient les années 70, n'avait la moindre idée de ce qu'était un run. C'est dire à quel point cette chose avait complètement disparu. Or, le run est revenu à la mode et on l'a vu fonctionner, en particulier par Northern Rock, où les gens se précipitent pour récupérer leur liquidité. « I want my money back », comme disait Margaret Thatcher en d'autres occasions. Alors ça, les banques centrales ont réagi avec efficacité et rapidité et en inondant de liquidités le marché interbancaire. Alors évidemment, de cette crise, on passe trois à la crise boursière et à la crise de solvabilité bancaire, boursière et bancaire liées. Un décrochement boursier assez violent, avec un phénomène très classique de dévalorisation des actifs. Donc on avait déjà une crise immobilière, dévalorisation des actifs immobiliers. Là, on a une crise boursière, dévalorisation des actifs, des titres. Et la crise de solvabilité bancaire est liée à la déflation de bilan. C'est-à-dire que les valeurs qui sont portées au bilan et qui sont des titres ou des immeubles fondent littéralement, si bien qu'on assiste à une déflation de bilan extrêmement importante. Alors le résultat, c'est qu'on a un dénouement brutal des effets de levier et un retournement à la baisse de ces effets de levier. Vous connaissez le système de l'effet de levier? Oui, oui. C'est quelque chose qui est très clair pour vous. Bon, c'est bien, parce que tout tourne autour de ce phénomène d'endettement. Et donc, je n'ai pas la peine d'y revenir. Mais quand ça se retourne et que les effets de levier qui jouaient positivement jouent négativement, c'est un risque de perdre la totalité des actifs engagés. D'où la crise de solvabilité bancaire. L'effondrement, on le sait, il a lieu le 15 septembre 2008. Devant la décision, du Federal Reserve System de laisser tomber une des banques d'affaires les plus importantes, qui est Lehman Brothers. La question qui est posée, c'est de savoir s'il y a eu là une erreur, mais il faut comprendre la logique de cette décision. C'est pour éviter un phénomène d'aléa moral lié au « too big to fail ». Tout simplement, les grandes banques américaines, étant persuadées que jamais le Federal Reserve ne les laissera tomber et que le gouvernement jamais ne les laissera tomber, prennent des risques exorbitants en sachant très bien qu'ils ne seront en définitive pas punis par une faillite bancaire puisque les autorités monétaires et gouvernementales sont derrière. Donc on a voulu en quelque sorte faire un exemple en disant « bon, laisse tomber une banque ». Celle-ci était d'une telle importance que les conséquences systémiques ont été majeures, avec un risque d'effondrement de l'ensemble de ce système. Il était très intéressant d'être en rapport avec les banquiers à cette époque. La terreur, d'un seul coup, la panique a été quelque chose qui était observable physiquement. Je le dis en passant, je me rappelle un directeur d'une très grande banque d'affaires française, la Compagnie Financière, qui était venu aux Journées de l'économie, qui était Sicurel, et qui avait dit, j'allais dire ici même, mais à quelques encablures, qui avait dit, Michel Aglietta, qui est un des grands penseurs de la théorie des crises et de l'effectivité de cette crise, Michel Aglietta nous avait décrit l'horreur, nous n'y croyons pas, mais c'est encore beaucoup plus épouvantable aujourd'hui. Nous n'avions jamais pu imaginer quelque chose de pareil. Donc la terreur au sens strict, la panique. L'effondrement des bourses mondiales, à ce moment-là, il y a 10 000 milliards de dollars sur les marchés d'actions qui disparaissent, je dirais en fumée, mais si vous avez des problèmes sur cette question de comment disparaissent en fumée 10 000 milliards de dollars, on y reviendra au moment des questions. C'est un point qui est souvent évoqué. Je signale quand même en passant que le PIB de la France est de... Ça, c'est un truc très dangereux. Hein. Personne ne peut ignorer à peu près... Oui, enfin, autour de 2 000 milliards, ça fait un chiffre rond. Notez-le quand même, c'est des trucs qui sont importants parce qu'on peut se faire planter, mais définitivement, avec ce genre de trucs. Dites-vous, la dette, par exemple, est de 2 500 milliards et elle fait à peu près 75% du PIB. Mais c'est on n'est pas à 100 francs près. Mais enfin, vous voyez, 2 000 milliards, c'est l'ensemble du PIB, ce que représente 10 000 milliards de dollars. Bon, alors évidemment, on a ce risque 5 d'effondrement systémique avec l'effondrement des faillites, des chômages, etc. Le creux de la crise à peu près au milieu de l'année 2009. Bon, alors je parlais de bulles. Je parlais de bulles immobilières et de bulles financières. Là, vous avez l'indice du prix des logements anciens rapporté aux revenus par ménage. Faites attention à ce que représentent les graphiques. Donc, on a un revenu par ménage moyen, évidemment, rapporté au revenu disponible par ménage. Bon, ne regardons pas les petits détails, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a une première bulle qui se développe en 1990, à peu près, enfin dans les années 85-90, qui est tout à fait spectaculaire et qui, elle, produit un effondrement du prix des logements. Aussi bien à Paris qu'en province, enfin, etc. Ça, les détails n'ont pas une grande importance. Et on voit qu'à partir de 1998, et puis pendant toutes les années qui vont jusqu'en 2006, on a une explosion de la bulle immobilière comme jamais. Depuis 1965, on a eu... Bon, alors, le problème, c'est que, comme vous le voyez, le prix des logements s'est tout à fait détaché du revenu disponible des ménages. Ça veut dire que personne ne peut plus acheter de logement quand il n'en a pas déjà, pour dire toutes les choses très simplement. On voit aussi combien, en 2010, là, aujourd'hui, combien Paris se détache encore plus. Bon, c'est la partie 2011... très récente par conséquent, la partie 2011, elle est très spécifique à la France, qui connaît un renouveau de cette bulle immobilière, alors que dans le reste du monde, en particulier aux États-Unis, on n'a pas ça du tout. Maintenant, à la bourse. Allons à la bourse depuis 1995. Alors, c'est très, très spectaculaire également. Vous voyez qu'en 1995 jusqu'en 2000, vous avez la montée d'une bulle, la bulle des NTIC, comme on disait à l'époque, nouvelle technologie de l'information et des communications. Alors, elle est extrêmement forte, mais elle se traduit par l'effondrement de la crise de 2000-2001. Et à partir de 2002-2003, la bulle repart. Et elle repart, pourquoi ? Elle repart essentiellement, mais c'est le point important, parce que partout dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis, très fortement aux États-Unis, du fait de la politique d'Alan Greenspan, tout spécialement, il y a une création massive de liquidités pour sortir de la crise de 2000-2001. Les taux d'intérêt tombent très bas. Et il y a une création de liquidités qui est tout à fait considérable. Alors, évidemment, ça a reproduit les conditions mêmes, cette création de monnaie, cette création de liquidités, a reproduit les conditions mêmes qui sont à l'origine des bulles, et en particulier des bulles financières. Parce que cette masse de liquidités s'est placée, elle était entre les mains des banques, elle était entre les mains des entreprises, de certains ménages aussi, et ça a été placé dans des actifs, aussi bien immobiliers que financiers, d'où le redémarrage de la bulle, et puis tout naturellement, comme nous le voyons, l'effondrement. Alors depuis, on a une assez belle remontée, et on peut se poser déjà une question qui est très importante, c'est est-ce que on va retrouver les niveaux qui étaient les niveaux anciens, hein. Là, c'est Standard & Poor's. Bon, on pourrait prendre beaucoup d'autres indices. On pourrait aussi bien prendre le CAC, on a à peu près la même chose. Mais ce qui est assez spectaculaire, c'est que cet indice, il est en 2001, on n'a pas réatteint 2001. Mais le crack de 2007 a eu lieu à peu près à la même hauteur d'indice qu'on était lors de la crise de 2000. Donc il y a eu une certaine stabilité. Donc on craint aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous le dis, on craint aujourd'hui, écoutez bien, que les mesures qui sont prises par les banques centrales, et particulièrement par la Fed, de création de liquidités, le quantitative easing 1 et 2, qui consiste à produire de la monnaie en quantité illimité ou presque, ne produisent une autre bulle de même importance, d'où une rechute. Bon, maintenant, les responsabilités, très rapidement. Bon, alors, 6, hein, j'en ai pris 6, mais je vais aller relativement rapidement. 1, la dérive institutionnelle qui a été induite par les politiques. C'est ce que je viens de dire. La politique de la Fed et des banques centrales en général, même si Trichet a été relativement prudent, a été tellement expansionniste qu'après la crise de 2000-2001, il n'y a pas eu pratiquement de récession. C'est-à-dire, pour lutter contre cette crise très dangereuse de 2000-2001, on a inondé de liquidités, donc on a cassé la récession. Le cycle n'a pas eu lieu normalement, heureusement, grâce à cette politique de Greenspan. Mais le résultat, c'est qu'on a de nouveau inondé de liquidités et recréé les nouvelles bulles. Autre dérive, c'est la déréglementation. Tout le monde sait ça. Mais n'oublions pas que le Glass-Steagall Act, qui séparait les banques entre les banques commerciales ou les banques qui font des prêts aux entreprises et aux ménages et les banques d'affaires qui sont placées sur le long terme et qui ont la possibilité aussi de se lancer dans la spéculation avec des effets de levier souvent considérables, ça a été coupé en deux. Bon, la suppression du Glass-Steagall Act est considérée comme un moment particulièrement crucial de la déréglementation, mais il y a eu aussi tout ce qui a un rapport avec la libéralisation des marchés, les déplacements des capitaux. Les règles prudentielles des banques ont été considérablement amorties et on a toléré beaucoup plus largement tout ce qui était spéculation sur des dérivés, titrisation, etc. Bon. J'ajoute que, bien entendu, pour comprendre l'arrière-plan de cette dérégulation, il est indispensable de voir à quel point l'idéologie dominante a été modifiée à l'échelle mondiale et combien la victoire des idées libérales au sens du libéralisme économique ont triomphé. Et il faut appuyer ça, évidemment, sur l'évolution à l'échelle mondiale des rapports sociaux avec l'effondrement des possibilités d'action des syndicats, des salariés en général, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou au Japon. Donc, j'ajoute encore un mot. La plupart, presque tous les économistes, incriminent la dérégulation, il faut savoir qu'aux États-Unis, les économistes les plus laissés faire incriminent, eux, la surréglementation et la surintervention de l'État. En particulier, ils estiment que l'État américain, avec la législation Community Reinvestment Act, qui était destinée à permettre aux ménages pauvres d'acheter des maisons ou des appartements et de prêter aux communautés favorisées, a eu un rôle dans le développement des subprimes, etc. Mais enfin, bon, c'est presque de la provocation pour eux de dire ça. Alors, deuxièmement, parmi les responsabilités, il y a évidemment le rôle des banques et des compagnies d'assurance. Alors, les innovations financières, en particulier la titrisation, la spéculation, aussi bien pour compte de clients que sur fonds propres, le rôle des dérivés, des CDS, je ne veux pas intervenir trop longtemps là-dessus, mais les effets de levier que les banques ont pratiqués et qui ont été tolérés par la réglementation et les autorités monétaires étaient tout à fait insensés. On incrimine aussi les modèles mathématiques qui se seraient complètement trompés. Bon. Les pratiques des banques. Oui, je cite là en particulier, je ne sais pas si vous l'avez vu, un film qui était très intéressant, Cleveland contre Wall Street. Si vous avez le temps d'aller voir ça, c'est très bien fait, c'est très équilibré. Et on voit comment les particuliers, et en particulier les particuliers pauvres, ont été incités fortement et même de façon à la limite de l'escroquerie, à emprunter alors même qu'ils n'avaient pas le moindre revenu. Pourquoi ? Ben, tout le monde le sait, c'est parce que les banques et les envoyés, les missionnaires envoyés par les banques étaient là pour leur dire « mais vous risquez rien, faites de fausses déclarations sur vos revenus, signez ce bout de papier ». Accusez aussi les modes de rémunération. Point très important, le bonus stock option. Les stock options, on n'a pas bien le temps d'en parler non plus, évidemment, mais c'est un phénomène d'une ampleur considérable pour les très hauts cadres des grandes entreprises dans le monde entier. C'est pas tellement ici la question de l'inégalité, de l'injustice, etc., sur laquelle je veux dire un mot, mais simplement le fait que c'est une incitation fantastique pour ces dirigeants d'entreprise à prendre des risques phénoménaux pour une raison très simple, c'est que quand ils perdent, ils ne perdent pas eux-mêmes, et quand ils gagnent eux-mêmes énormément. Donc c'est très simple, ils prennent les risques les plus importants, et de toute façon, quand ça ne paye pas, tant pis, quand ça paye, ils deviennent immensément riches, et quand ça s'effondre, ils ne sont plus là pour en subir les conséquences. Alors, troisièmement, les fonds d'investissement, c'est-à-dire les hedge funds, qui sont des fonds spéculatifs, qui ont indéniablement joué un rôle déséquilibrant majeur, comme d'ailleurs à chaque fois. Quatre, on accuse aussi les agences de rating, avec le fait qu'elles n'ont absolument pas agi comme au sens où on entendait qu'elles le fassent en lançant des avertissements ou alors en les lançant trop tard, avec une suspicion très forte que ces agences de rating étaient en relation d'affaires, disons, avec les gens qu'elles étaient censées contrôler. Enfin, les ménages eux-mêmes, point 5, ne pas oublier la responsabilité des ménages, parce que ceux qui se sont lancés dans cette course folle vers l'immobilier l'ont fait aussi pour s'enrichir, bien entendu, et l'avidité, greed, comme on dit en anglais, l'avidité est partagée aussi par les plus humbles qui pensaient pouvoir faire des coups formidables et certains ont réussi. Comme toujours, comme dans toutes les chaînes, les gens qui ont commencé à faire de l'endettement, acheter des appartements ou des maisons et qui ont réussi à les revendre à temps ont été gagnants. Et les autres, voyant les premiers s'enrichir, ont dit « pourquoi pas moi ?». Donc il y a eu non seulement une incitation de la part des banquiers, mais il y avait une demande de la part des particuliers. Personne n'est innocent, en quelque sorte. Bon, enfin, sixièmement, l'excédent chinois, en particulier, mais aussi des pays producteurs de pétrole, ont créé une masse de liquidités qui ont gonflé les liquidités à l'échelle mondiale. Bon, alors, pour l'expliquer, et c'est les deux lignes de la fin, il ne faut pas penser qu'on a affaire seulement à des dérives exceptionnelles ou à des erreurs de comportement. En fait, c'est l'ensemble du régime de croissance financiarisé qui a été responsable de ce phénomène de création de bulles et donc d'effondrement. Alors là, point C, quelques références théoriques pour expliquer cette crise financière ou les crises financières. Premier, enfin j'en ai gardé que quatre. Mais évidemment, les théories sont plus nombreuses que ça, surtout si on rentre à l'intérieur de chacune d'entre elles. Mais c'est simplement pour fixer en quelque sorte un plan. Le premier, c'est le dysfonctionnement des marchés, les marchés autoréférentiels, les bulles mimétiques, etc. C'est la remise en question de la thèse fondamentale de l'efficience des marchés qui avait été développée, qui leur a valu d'ailleurs le prix Nobel qui a été développé par Fama ou par Miller et Scholes, et qui a fait long feu. Plus personne n'admet aujourd'hui cela. En revanche, on assiste à des bulles mimétiques, c'est-à-dire qu'en l'absence de coûts de production et de fondamentaux clairs, chacun regarde ce que font les autres, et ça crée automatiquement des comportements mimétiques qui produisent des bulles, ou qui inversement, conduisent à des effondrements. André Orléans a beaucoup travaillé ensuite sur l'analyse des marchés autoréférentiels avec les conséquences procycliques qui sont maintenant bien connues et très visibles. Alors, on peut détailler ce point parce qu'il est important. Quand on achète des actifs, que ce soit des immeubles ou que ce soit des titres, évidemment, la valeur de ces actifs augmente, et par conséquent, le capital de ces propriétaires d'actifs augmente, et par conséquent, ils ont la possibilité de gonfler leurs emprunts dans la mesure où les garanties qu'ils offrent, c'est-à-dire ce qu'on appelle les collatéraux aujourd'hui, augmentent de valeur considérablement. Donc, plus ça monte, plus ils achètent, plus ça monte, plus ça monte, plus les collatéraux sont importants, plus les collatéraux sont importants, plus ils ont la possibilité d'emprunter, donc plus ils ont la possibilité d'acheter. Vous voyez que là, vous avez une bulle qui tient simplement à ce phénomène. En plus, les banques, de leur côté, ont la possibilité de prêter d'autant plus que leur capital
s'accroît.
Leur capital s'accroît, évidemment, dans la mesure où les titres augmentent de valeur. Et par conséquent, l'un dans l'autre, tout le monde y trouvant son compte, on assiste à l'explosion des prix et à la formation d'une bulle. Évidemment, lorsque ça craque, le phénomène de deleverage, le phénomène d'effet de levier inverse fonctionne et les pertes deviennent massives. Elles deviennent aussi massives que les gains avaient été importants. Avec cette différence que les pertes, comme je le disais, peuvent faire disparaître purement et simplement la totalité du capital qui a été investi. D'où dévalorisation du capital bancaire, etc. Donc, c'est le premier ensemble théorique sur ce non-fonctionnement des marchés, en particulier des marchés financiers. Deuxièmement, il y a évidemment toutes les théories de John Maynard Keynes, qui sont bien connues, autour de la bourse fonctionnant comme un casino, du concours de beauté, et ce qu'il explique, dans la théorie générale, sur l'instabilité à court terme des anticipations sur la rentabilité des investissements. C'est sans doute là que l'on trouve les analyses pour la période des années 30 les plus impressionnantes. Et Keynes est indéniablement le précurseur de l'analyse des marchés autoréférentiels. Le troisième ensemble de théories, c'est la théorie du cycle financier, qui est une théorie ancienne, qu'on la retrouve aussi bien chez Juglar que chez Wicksell, que des auteurs comme Fischer, qui redeviennent très fortement à la mode, ou comme Minsky, encore plus, on n'en parlait plus beaucoup de ce cher Minsky, et tout d'un coup, tout le monde l'a redécouvert à cause du cycle financier. Donc, trois phases, c'est très simple, et on le retrouve déjà très bien chez Juglar. La phase d'euphorie avec une montée du surendettement, une phase 2 qui est l'éclatement de la bulle et une phase 3 avec le deleverage, la déflation de bilan particulièrement. Et enfin, quatrième ensemble théorique qu'on peut rattacher bien sûr au précédent, c'est la théorie d'Irving Fisher. Irving Fisher et la debt deflation theory, c'est-à-dire qu'il explique que dans une situation de surendettement, un choc déflationniste qui survient sur les marchés d'actifs, en particulier sur le marché financier auquel il pensait, va effondrer la valeur du capital et, par un effet de levier négatif, va produire l'insolvabilité généralisée, systémique, et le désendettement aussi bien des entreprises que des ménages. Grand 2,